On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr. C'est bon.
Avant, il y avait dans la grande rue, il y avait des milliers de mecs avec des vestes en cuir qui allaient bosser à Manu France, à la manufacture, partout. Il y avait des mecs qui jouaient de l'accordéon dans les bistrots, des bars de pute derrière la place du peuple.
On va parler donc de bugne. Alors, la bugne, c'est du boulot.
Je suis de Lyon, autant dire que Saint-Etienne, c'est pas trop. C'est pas la ville qu'on préfère ici.
Plus exigeante dans sa fabrication, moins rentable que sa voisine, la fourme d'Ambert, la fourme de Montbrison est un enjeu vital pour ce territoire rural et notamment pour les producteurs de lait.
Très fier d'être stéphanois. Et pas seulement fier parce que la ville du travail, ainsi de suite, ou les pensifs, croient qu'il y a autre chose.
Nous aussi, on croit qu'il y a autre chose à Saint-Étienne, comme l'affirmait à l'instant l'homme politique local Daniel Mandon. Il y a autre chose, et notamment de bonnes choses à manger et à boire. Stéphanoise et Stéphanois, bonjour. Merci. Public nombreux et très chaleureux. France Inter a délocalisé de nombreuses émissions à Saint-Étienne ces derniers jours et On va déguster fait partie du voyage. Nous avons la chance de dresser le couvert sous une belle structure qu'on aperçoit à travers le faux plafond de fonte et d'acier. C'est la structure des Halles Mazra, cours Victor Hugo, au cœur du centre-ville. Des Halles Mazra dont on murmure d'ailleurs qu'elles vont devenir bientôt un lieu de marché et de dégustation avec une trentaine d'artisans, de commerçants, de restaurateurs. Et oui, Saint-Étienne est bien une ville qui a de l'appétit. Et on va vous le prouver avec nos trois invités en ce dimanche. Tout d'abord, une femme de goût à la tête d'une fabrique historique de pâtes artisanales et d'une épicerie très très fine. Tous les Stéphanois connaissent forcément cette enseigne rue Pointe-Cadet. Allez, on fait un petit essai. Ça s'appelle comment dans le public ? Cornan, voilà, tout le monde a la réponse, c'est facile. Cette boutique du centre-ville a fait peau neuve et fête en plus cette année ses 100 ans. La troisième génération est incarnée par Luce Cornan. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez des choses à nous raconter, une très belle aventure que vous menez comme ça, tambour battant, des pâtes artisanales qui sont en train de cuire dans la casserole.
Oui.
Vous êtes aussi évidemment une épicerie fine.
Voilà, j'ai deux casquettes, je fabrique des pâtes alimentaires sur Saint-Étienne. Depuis 100 ans.
Oui.
Troisième génération, la petite fille des fondateurs.
C'est ça, bravo. Belle, très très belle aventure. Nous avons également à nos côtés un couple d'artisans fromagers à la tête de la fromagerie La Griotte. Ils fabriquent de la fourme de Montbrison, une pépite du terroir régional dont l'identité, il faut bien le dire, est malheureusement mise à mal par les groupes industriels. Votre fourme de Montbrison est bio, artisanale, au lait cru. Catherine Griot, Hervé Guillermin, bonjour.
Bonjour
à tous. On va la goûter, cette fourme, ça c'est sûr, elle est là, elle parade sur le plateau dont on va déguster, on en est très heureux. Et enfin, troisième invité, un tout jeune crack des fourneaux qui a éclos à Saint-Paul-en-Jarret, en lisière du parc naturel du Pilat, une vingtaine de kilomètres à l'est de Saint-Étienne. Une table créative engagée dans une démarche éco-responsable. Son restaurant s'appelle L'Éclosion, c'est Pierre Carducci, bonjour.
Bonjour à tous.
Je disais qu'il faisait des choses très créatives, mais il est aussi capable de revenir au terroir stéphanois, une espèce de cuisine ménagère et roborative, dans le bon sens du terme, avec une...
Une râpée de pommes de terre à la fourme.
Une râpée de pommes de terre à la fourme, voilà. Nos invités s'entendent bien. Râpée de pommes de terre d'un chef avec la fourme de nos amis dans la bande dont on va déguster. Je demande aujourd'hui une chroniqueuse tout terrain et un chroniqueur très très vain. Estherelle Payani et Jérôme Gagnès, bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Estherelle.
On va se battre, François-Régis. On va échanger quelques beignes autour de la bugne.
Des beignes autour de la bugne. Ah oui, d'accord. Vous voulez me mettre dans une situation diplomatique compliquée. Lyon, Saint-Etienne, tout ça.
Et Marseille au milieu, vous
et
allez
Marseille
voir.
Et Marseille au milieu, puisque Estherelle nous vient quand même de Marseille pour compliquer le débat. Jérôme.
Oui, alors moi, je suis allé promener mes vers dans le forêt.
Oh là là, ça commence avec des gros jeux de mots.
Ouais.
D'accord, dans le forêt, je vois ce que vous voulez
donc
dire.
C'est pas une faute de français, hein, c'est bien le forêt.
C'est ça, des vins du forêt, des pâtes artisanales, de la râpée de pommes de terre, de la fourme de Montbrison, des bugnes. On va déguster, sort son couteau et sa fourchette à Saint-Étienne.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Donc je m'appelle Marie-Lise Brice, je travaille à Craponne-sur-Arzon et le nom de ma marque c'est le Pigourmand. Moi, je vends des yaourts que je fabrique à la ferme et des crèmes dessert.
Tout bio.
Tout bio. avec du lait de vache, de ferrandaise et de jerseyaise.
Je voulais juste savoir si vous veniez régulièrement au marché bio.
Ah oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ça fait bien 30 ans que je vais au marché bio. Tous les vendredis.
Qu'est-ce que vous venez d'acheter là ?
Des pommes et des endives.
Et on est chez...
À Bracababio, chez Camille. Bonjour. Et du coup, moi, je travaille dans une ferme où on produit des fruits. Et après, moi, je regroupe plusieurs producteurs pour pouvoir permettre à mes clients d'avoir un peu tout ce qu'il faut au même endroit. Et là, j'ai des jolis petits jus, des petits produits transformés aussi, et de la bonne humeur.
Merci beaucoup. Bonjour. Je voulais savoir si vous veniez souvent au marché bio de Saint-Étienne.
Ah, tous les vendredis.
Qu'est-ce que vous y achetez ?
De tout. Tout ce qu'il y a, des bons légumes, de la bonne viande, du poisson, de tout.
Mais on ne serait pas chez Monsieur Carducci, par hasard ?
Oui, vous le connaissez ?
Bah, c'est le papa d'un restaurateur célèbre, oui.
Voilà, je suis le papa de Pierre. Mais bon, je fais pousser que des légumes, hein. C'est pas de ma faute s'il est... Voilà.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fils ?
De faire au mieux. Pour qu'il se fasse plaisir, c'est bien.
Voilà. Et qu'il se fasse plaisir avec vos légumes.
Oui, bah ça, c'est... Voilà. C'est comme il veut.
Merci.
De rien.
Vous avez reconnu Papa Carducci au marché bio de Saint-Étienne tous les vendredis matin, place Albert Thomas. Car vous connaissez la devise de l'émission, pour voir ce qu'une ville a dans le ventre, eh bien il faut aller au marché. C'est la meilleure façon de se rendre compte un peu des saveurs locales. Papa Carducci, Hubert de son prénom, c'est votre papa, il fournit aussi votre restaurant. Faire au mieux, c'est oui, ce oui. Que vous essayez d'appliquer la devise paternelle.
Ouais, moi c'est un petit peu mon idée quand j'ai ouvert le restaurant, c'est vraiment de travailler avec... Bah déjà mon père, c'est pour ça que je me suis installé par ici pour travailler le plus local possible. Et puis c'est pareil dans tous les producteurs, ou en tout cas au maximum, j'essaie vraiment de travailler d'une manière locale avec la fourme de Catherine et Hervé, voilà, avec le boucher qui est juste à côté de chez moi, la poissonnerie Robert à Saint-Étienne, donc vraiment travailler au maximum avec des gens d'ici.
Vous avez aussi de très bons œufs dans votre restaurant qui sont vraiment produits juste à côté de votre établissement ?
Exactement, ouais. Par exemple, notre producteur d'œufs, c'est Quentin Rioux, donc qui est à Saint-Paul-en-Jarret, qui nous livre tous les vendredis, donc c'est quelqu'un que je connais bien, donc voilà. On essaie vraiment de travailler avec des gens le plus proche possible de chez nous.
Luce Cornan, est-ce que vous allez un peu au marché bio de Saint-Étienne ?
J'y vais quelques fois. Mais je vais sur les marchés m'approvisionner, mais en produits comme le citron et l'orange, on ne trouve pas dans la région. Oui. Donc c'est plus compliqué.
Absolument.
Mais je me rends à titre personnel sur le marché bio. Oui.
Catherine et Hervé, est-ce que vous auriez pu comme ça vendre votre fromage bio sur le marché bio de Saint-Étienne ?
Eh bien, en fait, on l'a fait. Mais il y a un autre marché, c'est le samedi matin. Et c'est là que je viens. Il y a un peu plus de monde vu que oui. C'est un samedi matin.
Le bio était pour vous une véritable condition de production cette forme de Montbrison ?
Ah ben bien sûr, étant donné que quand j'ai démarré, il y avait 3 producteurs de fourme, dont 2 industriels et une artisanale. Il n'y avait même pas de fourme de Montbrison bio. Et c'est là qu'on s'est dit, j'ai hérité des caves de mon grand-père. En 2012, j'ai décidé que je ferais de la fourme de Montbrison bio.
Fourme de Montbrison bio, cela signifie qu'elle est fabriquée avec du lait cru bio, donc issu d'un élevage biologique.
Exactement. Et on prend le lait à un seul producteur, Olivier Marcoux sur Saint-Bonnet-le-Coureau.
Oui.
C'est le lait qui va faire le fromage.
Absolument.
Moi, ma main va y faire un petit peu, mais 70% du lait va faire le fromage.
On va en parler tout à l'heure de cette très très belle aventure familiale et des enjeux aussi, pas toujours très rassurants d'ailleurs, qui concernent cette fourme de Montbrison, cette petite pépite en voie d'extinction, on peut le dire. On peut parler de chef-d'œuvre en péril et on va en parler avec vous tout à l'heure. Estherelle, un vrai coup de cœur hein, dans ce marché bio pour une néo-paysanne.
On l'a entendu tout à l'heure. En effet, Marie-Lise Brice, elle est installée depuis 5 ans à Craponne-sur-Arzon. Elle est éleveuse au départ de jerseyaise et de ferrandaise. Elle a une petite dizaine de bêtes. Et elle fabrique ses yaourts et ses crèmes dessert depuis 2 ans. Elle fait aussi du riz au lait.
Oui.
Paraît-il un peu inspirée d'une recette passée sur On va déguster. Je sais qu'elle est derrière son poste. C'est des yaourts qui sont particulièrement peu sucrés. 50 grammes au litre. Il y en a au citron, il y en a à la framboise. Donc, c'est des huiles essentielles de citron qu'elle utilise notamment.
Oui.
Et ils sont crémeux, doux. Alors, on peut aller la retrouver sur le marché le vendredi, mais aussi dans une petite boutique qui s'appelle Le Vrac en Vert, rue Roger Salingros. Elle m'a signalé pour ceux qui veulent la goûter.
Pierre Carducci a dégusté justement une spécialité fromagère de notre néo-paysanne. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre ?
Ouais, c'est vraiment top. Là, sur celui-là, on a vraiment un goût un petit peu caramélisé, tout ça, et quand même le vrai goût du lait, donc c'est super intéressant même à travailler dans un restaurant.
Vous connaissiez ?
Je ne connaissais pas celui-là, non.
Voilà, bah, l'émission elle est faite aussi pour mettre les gens de conviction en contact. On a fait aussi hier, vous vous en doutez, avec un gugus comme Jérôme Gagnès, la tournée des bars à vin. Et on a trouvé deux belles adresses dans le centre-ville de Saint-Étienne.
Ah ouais, des vraies pépites pour le coup, vraiment des bars à vin magnifiques. On a commencé avec Pampille, d'Amandine Mermet et Benjamin Guillaume. Très intéressant, un bar d'artisans, c'est-à-dire qu'en réalité, tout vient d'un rayon de 200 km maximum autour de Saint-Étienne. Évidemment, une très jolie carte des vins, riche en vins du Forêt, en délicieux vins du Forêt, riche en vins du Rhône, du Beaujolais. Il faut absolument aller chez eux parce que c'est vraiment un très très bel endroit. C'est 10 rue Denis Escoffier. Et puis, on a poursuivi notre petit périple chez Demain les Vins.
Oui, je vous le confirme.
Un magnifique bar à vin qui est situé 1 bis, cours Jevin-Bouchard. Ça a été monté par Mathieu et Antoine Mondésert ainsi que Benoît Perrault. Et voilà un très beau bar à vin où on s'est régalé d'un œuf maillot, de poireaux vinaigrettes, de terrines diverses, de rillettes. Le tout généreusement arrosé de crus locaux et moins locaux. Et d'ailleurs, on les remercie mille fois parce que c'est eux qui nous prêtent leur plaque à induction mobile.
Donc, vous saurez tout sur les coulisses de
dégustation. Donc comme ça, on peut déguster les pâtes de Luce grâce à la plaque à induction de Demain les Vins. Super adresse. Courez-y parce que vraiment, on passe un très très bon moment et ils sont adorables, ce qui ne gâte rien.
Pampille, un bar d'artisans pour boire et manger local. Et Demain les Vins, deux belles adresses qu'on recommande à nos auditeurs très chaleureusement. Juste un tout petit point, Luce Cornan. C'est vrai que Saint-Étienne, on n'a pas... derrière son poste de radio, sa géographie en tête. Qu'est-ce que vous diriez ? C'est une ville très intéressante sur le plan culturel, culinaire, irriguée d'influences régionales très différentes, en fait, entre l'Auvergne, alors, l'Ardèche.
Saint-Étienne est au cœur de la région Aura, la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, à 60 km de Lyon, 100 km de Clermont-Ferrand, à Valence, 80, on est à 60 km du Puy. C'est une ville qui est entourée de collines, qui est une ville à la campagne, puisque la nature est très proche. Et on est dans les monts du Forêt, les monts du Pilat, les monts du Lyonnais. C'est une ville sympathique, une ville à taille humaine et une ville qui a su muter, puisque aujourd'hui, depuis 2010, nous sommes reconnus... pour la cité du design, ville de l'UNESCO.
Absolument. Voilà. Saint-Étienne à la croisée de plusieurs terroirs et régions historiques avec des influences multiples. Ça rend notre visite d'autant plus intéressante. Est-ce que vous connaissez un groupe de rock français fondé dans les années 90 à Montbrison ? Vous voulez un petit peu de Mickey 3D ? C'est parti !
J'ai comme l'impression que la vie a changé. Mon cœur speed, il fait n'importe quoi. J'ai la certitude que tout est bousculé. Je ne comprends pas, je dis pop pop. On va enfin se retrouver. On ira au cinéma, à la piscine, où on ira se promener. Je ne te quitterai pas. C'est la première fois que quelqu'un me permet d'approcher ce qui ne s'explique pas. C'est la première fois que quelqu'un me paraît différent. Vraiment, je dis pop pop. On va enfin se retrouver. On ira au cinéma, à la piscine, où on ira se promener. Je ne te quitterai pas, je dis pas, pas, on va enfin se retrouver. On ira au cinéma, à la piscine, où on ira se promener. Non, je ne te quitterai pas. C'est étrange parfois, comme les choses peuvent changer. Il suffit d'un regard, d'un sourire, et tout, tout, tout est bouleversé. Je dis pop, pop, on va enfin se retrouver. On ira au cinéma, à la piscine, où on ira se promener. Je ne te quitterai pas. Je dis papa, on va enfin se retrouver. On ira au cinéma. Je dis pop, pop, la fête, je ne veux pas me gâcher. Je ne t'embrasserai pas. Là.
On va déguster Croque Saint-Étienne par tous les bouts depuis les Halles Mazra et devant un public chaud bouillant. Merci beaucoup, merci d'être là. On dit souvent que Saint-Étienne est la ville française où l'on fabrique des armes, où on en fabriquait, des cycles également, oui, oui, des rubans, car il y a un certain nombre de tisserands, mais on a oublié d'ajouter que Saint-Étienne était aussi la ville de la pâte alimentaire. Grâce à l'enseigne Cornan, enseigne incroyable qui fête son centenaire cette année et qui est, c'est ça qui est fou aussi, labellisé EPV comme...
Entreprise du patrimoine vivant.
Entreprise du patrimoine vivant, un label d'excellence décerné par l'État.
C'est ça.
C'est dire si votre démarche est culturelle, historique, artisanale.
Oui.
Comment on s'est retrouvé à fabriquer des pâtes haute couture, comme vous les surnommez à Saint-Étienne?
La naissance de l'entreprise date de mes grands-parents, qui sont natifs de Marseille.
Ah, Serrel Payani se sent un peu moins seul, soudain.
Et l'arrière-grand-père a été nommé un percepteur des impôts à la Ricamarie, un petit village à côté de Saint-Étienne. Il a monté ses deux fils, qui étaient apprentis dans une fabrique à Marseille.
Incroyable.
Et de là est née la maison Cornan. En 1919, à la même adresse, 5 rue Pointe-Cadet, qui s'appelait rue Valbenoit avant.
L'enseigne est restée au même endroit.
L'enseigne est restée au même endroit et la production également.
Quel type de pâtes?
Des pâtes fraîches fabriquées tous les jours, pâtes farcies, pâtes laminées, et puis pâtes sèches en forme de tagliatelle, donc pâtes laminées, et en forme de pâtes courtes que nous retrouvons, pâtes pressées, ce que j'appelle. Alors, on fait des pâtes aux œufs, on fait des pâtes nature, on fait des pâtes aromatisées, on fait même des pâtes en or.
Ah, des pâtes en or. Eh ben, dites-moi carrément. On a assisté vendredi matin, on a eu cette chance-là. On s'est glissé comme des petites souris avec l'équipe dont on va déguster dans l'atelier juste derrière la boutique. C'est encore là que vous fabriquez la totalité de votre production de pâtes. C'était un spectacle assez magique et assez émouvant.
Ah oui, ouais, c'était vraiment. D'abord, moi, je suis toujours très ému de voir une entreprise artisanale après trois générations qui fait vivre un quartier, enfin qui est en plein cœur d'un centre-ville. Oui. On a vraiment vu les pâtes se faire avec votre fils Luce, votre mère, votre père. On a vu votre tante aussi.
Oui. Attendez, votre tante quand même. Et Huguette, 92 ans.
Extraordinaire.
Votre grand-tante qui continue à conditionner les pâtes. 92 ans, Huguette, elle a la pêche.
Oui, mais chez Cornan, on vit et on meurt dans les pâtes.
Ben, je vois ça, oui.
Donc, non, mais on a quand même vu les trois générations réunies dans l'atelier. C'est extraordinaire.
Même les quatre.
Les quatre, oui.
Mon fils est la quatrième.
C'est la quatrième, exactement.
Production manuelle, c'est-à-dire sans automatisation. Alors, évidemment, ça se passe sur des machines, mais sur des machines qui ont plus de 70 ans, des laminoirs, des pétrins qui sont en plus... patinés par le temps et qui sont beaux. Vous me dites qu'ils ne sont même plus fabriqués.
Alors, ces machines viennent d'Italie et ces machines ont 70 ans à peu près. Elles sont toutes en fonte et elles sont aujourd'hui présentes au musée à Rome.
Incroyable.
Voilà.
Des pâtes de grande qualité, ce sont évidemment aussi des matières premières de qualité.
Tout à fait. On est également certifié Origine France Garantie.
Oui.
Donc, on travaille exclusivement avec des produits français. Mm-hmm. La semoule nous vient d'une minoterie qui était à Chambéry et qui, elle, fait la qualité de nos produits également.
C'est ça.
Voilà, puisque la matière première de la semoule de blé dur, c'est quand même la matière première principale pour faire les pâtes.
Vos pâtes sont moins chères que des pâtes artisanales italiennes de grande qualité aussi, mais vous arrivez à obtenir des prix relativement compétitifs.
La qualité ne veut pas dire que ça soit cher. Et je pense que nos pâtes sont au prix qu'elles doivent être.
Le prix des pâtes chez Cornan ?
Alors, le prix des pâtes chez Cornan, les pâtes fraîches, 9,50 euros le kilo. C'est oui. des pâtes qui sont fabriquées tous les jours. les pâtes sèches, ça dépend de 4,50 en nature,
oui.
le kilo.
Oui.
Et puis après, vous passez sur de la pâte aromatisée où vous pouvez monter jusqu'à 35 euros le kilo.
C'est ça.
Voilà.
Que représente votre production en termes de volume chaque année?
On fait entre 40 et 50 tonnes de pâtes par an. Ça représente pas grand-chose, on est vraiment sur une niche. Il faut savoir que nos concurrents italiens fabriquent cela dans la journée. Quoi.
Oui, des grandes marques voilà. industrielles italiennes qu'on ne citera pas. Il paraît que vos pâtes commencent même à avoir du succès à l'étranger.
Je vends des pâtes en Italie.
Oui, non.
Si,
ah, elle a
et
osé.
Ça j'en suis très fier.
Bravo, bravo. Attendez, une maison stéphanoise. Qui vend des pâtes au en pays Italie. De la pasta.
Oui, on vend des pâtes à la spiruline en Italie.
À la spiruline.
Oui, tout à fait.
Il faut préciser qu'il n'y a évidemment aucun conservateur,
non.
aucun arôme. Et
non.
s'il y a parfois des pâtes un peu teintées, elles le sont avec des produits naturels.
Naturels, oui.
Les pâtes vertes, en l'occurrence, c'est de la spiruline.
Tout à fait.
On parle d'une algue, là. Hein.
Oui, de l'algue d'Ouessant, qu'on prend d'ailleurs sous forme de poudre pour travailler.
Estherelle Payani a cuit vos pâtes. De quelle variété s'agit-il?
Ce sont des pâtes à l'ail et au persil.
Alors, Catherine Griot, est-ce que ça va? Est-ce que sont cuites ou pas?
C'est pas mal, hein. quand elle a dit l'ail et au persil, ouais, c'est vrai, c'est bien ça. Hein.
La texture.
Elles sont une belle couleur. Ouais. Elles sont al dente.
Elles sont bien cuites?
Ouais, bien. Elles ont une belle couleur vert tendre.
Pierre Carducci?
Oui, ce qu'on recherche quand on est cuisinier dans une pâte, c'est la texture et le goût. Donc voilà, donc ce qui est intéressant sur ces pâtes-là que moi je connais, donc c'est vraiment qu'il y a une mâche qui est intéressante, la couleur pour l'aspect et puis surtout le goût. Quand on nous annonce ail et persil, on a vraiment de l'ail et du persil.
Ce sont des produits frais, hein. C'est du vrai ail, du vrai persil,
ça
frais.
Ça se sent,
oui, non, mais c'est sûr.
Belle souplesse sous la dent, en même temps une certaine fermeté.
Oui.
Semoule de blé dur, hein.
Oui. De toute façon, pâte alimentaire en France, semoule de blé dur, obligatoirement.
Pierre Carducci, vous les cuisinez au restaurant, l'éclosion, Saint-Paul-en-Jarret?
Non, nous, on essaie de les faire nous, donc c'est du,
ouais,
du
bah,
coup,
c'est sûr.
Pas pareil. On fait surtout des pâtes farcies, donc on les fait nous aussi avec de la semoule de blé dur, pareil. Mais voilà, on fait nos pâtes, nous, notre côté.
Combien de variétés de pâtes en tout, Luce Cornan?
Une centaine.
Une centaine de variétés de pâtes. Est-ce qu'il y a des Stéphanois qui vont souvent chez Cornan ici? Levez la main. Ah oui, d'accord, tout le monde, toutes les mains se lèvent, ok.
Merci.
Ils sont chauvins et fiers de leur enseigne.
J'ajoute que les pâtes ail et persil, ça va très très bien avec la cuvée que je suis en train de goûter. Un vrai accord régional, très joli accord. On peut en manger des tonnes, il n'y a pas de problème.
Oui,
et
ça,
je vais boire quelques verres avec.
Je suis assez d'accord, Estherel.
Moi, j'avais remarqué les origines un peu marseillaises parce que j'ai trouvé ce matin chez Cornan des pâtes pour mettre dans la soupe de poisson à l'encre de sèche et au
safran.
C'est introuvable à Marseille.
Quel format de pâtes?
Des vermicelles gros.
Le truc pour la soupe de poisson que d'habitude j'achète en Italie.
Du coup, Estherelle Payani a...
Vous reviendrez à Saint-Etienne.
J'en ai mis 2 kilos dans ma valise.
C'est ça. Pierre Carducci qui a ouvert son restaurant il y a maintenant un peu plus de 2 ans.
2 ans et demi, ouais.
Il y a 2 ans et demi à Saint-Paul-en-Jarret dans un magnifique château début 20e siècle.
C'est ça, exactement. Ouais.
Splendide endroit où j'ai eu la chance de m'attabler.
On est pas mal, ouais.
Quelques mois après l'ouverture. Et j'ai apprécié votre démarche avec un vrai parti pris créatif que vous pourriez définir comment? Vous faites une cuisine... assez libre et sauvage.
Ouais, moi c'est ce que j'ai envie de dire. Ouais, une cuisine naturelle sauvage. J'essaye de, voilà, nous on est une région où il y a la culture lyonnaise qui est vraiment pas loin de chez nous, mais on a quand même la chance d'avoir un terroir qui nous permet de nous exprimer. Donc voilà, une cuisine assez identitaire.
Vous êtes vraiment à cheval entre Saint-Étienne et Lyon, et du coup vous avez des réconciliations permanentes entre les Stéphanois, les Lyonnais, qui lèvent le coude ensemble dans votre restaurant?
Oui, alors on a beaucoup de Stéphanois plutôt la semaine avec une clientèle d'affaires, et le week-end on a beaucoup de Lyonnais qui viennent justement se ressourcer un petit peu à l'extérieur de la ville.
Qu'est-ce que vous faites comme genre de plat en ce moment pour donner une idée de votre cuisine à nos auditeurs?
En ce moment, avec les légumes, beaucoup de légumes racines. Par exemple, on travaille une soupe de pommes de terre, donc sous différentes textures, avec un siphon pommes de terre, une purée de pommes de terre retravaillée comme un aligot. Enfin voilà, avec plein de variétés de pommes de terre différentes.
C'est ça. Il s'amuse avec la pomme de terre. Il va nous le prouver d'ailleurs, parce que le garçon, c'est toujours pareil. Moi, j'aime bien tester un peu les chefs quand ils partent un peu dans les hautes sphères de la cuisine créative. Je leur demande de redescendre un peu sur terre, de cuisiner comme leur maman, de faire des choses un peu domestiques et ménagères. Et en l'occurrence, quand on a parlé pommes de terre ensemble, il y a inévitablement une spécialité qui arrive sur la table incontournable à Saint-Étienne, c'est
la râpée de pommes de terre. Donc voilà,
C'est vraiment l'une des choses à Saint-Étienne où quand on demande une spécialité, il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui nous viennent à l'esprit. Mais par contre, la râpée de pommes de terre, je pense que c'est quelque chose à Saint-Étienne que tout le monde connaît, que tout le monde a mangé. On l'a retravaillé avec la forme de Montbrison de Catherine.
Et ben voilà, les choses sont bien faites. C'est vrai que dans la famille des galettes de pommes de terre françaises, je demande la râpée, mais qui est la cousine de la crique d'Ardèche, de la toche d'Alsace, du rosti de Suisse, du milassou de Corrèze. Il y a chaque région a sa râpée de pommes de terre. Alors, juste avant qu'on vous demande la recette, Pierre, on va donner la parole à une auditrice qui l'a goûtée. Bonjour, vous vous appelez comment ?
Bonjour, je suis Marie-Fred.
Bonjour Marie-Fred. Alors, cette râpée ?
Eh ben, c'est délicieux. C'est délicieux. Elle est très très bonne, très goûteuse et voilà, très bonne.
Est-ce que vous avez, allez, on fait un petit jeu. Est-ce que vous avez décelé la liste des ingrédients ?
La pomme de terre.
Bravo !
De l'ail.
Oui.
Alors, assez aillé, c'est vrai. Et un petit peu de fourme ou pas ? Alors,
oui.
Il y avait, voilà. Et la fourme, voilà.
Ben, elle a presque tout bon.
Presque tout bon, ouais. Il y a quelques petites choses en plus, mais voilà, la râpée de pommes de terre, il y a beaucoup d'ail, c'est un petit peu la spécialité peut-être qui différencie avec d'autres râpées de pommes de terre d'autres régions de France.
Ouais. Comment on s'y prend ? Allons-y.
Bon, alors c'est assez simple, on râpe une pomme de terre avec une chair ferme, type agria par exemple, qu'on mélange avec de la farine, des œufs battus, là on a rajouté donc ail, persil haché, poivre blanc, sel, voilà, on mélange l'ensemble avec une liaison, là on a rajouté un petit peu de four mâché.
Oui.
Voilà, pas trop parce que sinon ça risque de brûler vu que c'est un fromage, donc faut faire un petit peu attention les préparations cuites avec du fromage. Dans une poêle avec de l'huile neutre, rôti à feu assez vif, retourné régulièrement pour pas que ça brûle.
C'est ça. Donc on est presque un peu entre entre la tortilla et la galette de pommes de terre,
ouais,
la râpée.
Toutes les cultures, toutes les régions, un petit peu un plat emblématique autour de l'œuf et de la pomme de terre.
C'est ça.
En Espagne, ce sera la tortilla de pommes de terre. Et puis après, comme vous avez dit, le rösti en Suisse. Ici, c'est la râpée, la crique ardéchoise ou la pomme paillasson. C'est le nom un petit peu générique qu'on trouve en France, quoi.
Et pour ceux qui veulent faire une belle râpée de pommes de terre à la fourme de Montbrison, on va en parler dans un instant avec nos invités. Vous n'êtes pas trop choqué que votre fourme finisse fondue dans une râpée de pommes de terre ?
Bah au contraire, au contraire.
C'est une bonne nouvelle. Et ben pour ceux qui veulent s'y essayer, il y a évidemment la recette sur franceinter.fr. À la page, on va déguster. Dans un instant, on va évoquer justement la fourme de Montbrison, ce petit chef-d'œuvre fromager qui est pas très loin de Saint-Étienne. Mais juste avant, on fait un petit tour dans nos verres avec Jérôme Gagnès.
On va déguster sur France Inter.
Comment allez-vous, Jérôme ?
Là, je suis en pleine forme.
Vous avez rempli nos verres ?
Les verres sont remplis, pas encore vidés. Je suis un peu surpris. Je ne sais pas ce que vous faites là, mais
ça va. Ça va venir.
Il faut s'y mettre, les enfants. Donc, je suis allé donc faire un tour dans le Forêt. C'est un vignoble que je connais depuis pas mal de temps, dont j'aime beaucoup les vins parce que c'est un vignoble qui fait des vins à partir d'un cépage qui s'appelle le Gamay. C'est une petite variante du Gamay noir à jus blanc qu'on rencontre dans le Beaujolais. Ça s'appelle le Gamay Saint-Romain. Gamay noir à jus blanc aussi. C'est un cépage que j'aime beaucoup. Et on est là dans un vignoble qui n'est pas très grand parce que, grosso modo, ça fait 150 hectares. C'est situé à une centaine de kilomètres de Lyon, quelques encablures de Saint-Étienne. Et c'est un terroir et une région qui est très intéressante parce que il y a deux terroirs bien distincts, deux sols bien distincts. Il y a des granites et puis également un terroir volcanique de basalte. Mmh. On va d'ailleurs goûter deux vins, l'un qui est sur terroir volcanique et l'autre qui est sur des terroirs granitiques. Et ça donne deux gamets qui sont vraiment bien identifiables et bien différents. C'est un petit vignoble, hein. Il y a 9 vignerons indépendants, il y a une cave coopérative qui fait à peu près presque la moitié de la production. Et puis, il y a aussi une particularité climatique. Alors d'abord, c'est un vignoble qui est plutôt un vignoble d'altitude, entre 400 et 600 mètres, donc c'est relativement haut. Et puis, il y a l'effet de faune, il bénéficie de l'effet de faune. Ce sont ces vents humides qui viennent de l'Atlantique, en fait, de l'Ouest, et qui s'assèchent, en fait, sur les montagnes qui précèdent le vignoble. Et donc, ce qui fait qu'il y a une pluviométrie très faible. Et ça permet d'avoir finalement des très belles maturités et en même temps de conserver des belles acidités parce que l'altitude, ça permet de conserver la fraîcheur et l'acidité dans les vins. Donc vraiment, un très très joli vignoble. Deux domaines dont on va goûter le vin.
Ah, deux domaines coup de cœur.
Exactement, deux domaines coup de cœur que je connais déjà depuis un petit moment. Le premier domaine dont je veux vous parler, c'est le domaine Jackie Verdier-Logel. Alors c'est Odile Verdier, Jackie Logel et puis maintenant Maxime qui les a rejoints tout récemment. C'est un domaine qui a été créé en 1992. Jackie est d'origine alsacienne, Odile, elle, est d'origine stéphanoise, enfin elle est du coin. Et ils ont repris le domaine des parents d'Odile. Voilà un domaine d'une quinzaine d'hectares qui est en bio et qui fait des vins qui sont sur terroir basaltique et sur terroir granitique. Ce sont des très jolis vins. Ce sont des vins qui sont francs. Ce sont des vins qui expriment à merveille, avec vraiment beaucoup d'intensité et merveilleusement, ces deux terroirs typiques du Forez. Des acidités, des fraîcheurs, un caractère minéral saillant sur les vins basaltiques. Vraiment, c'est un très joli domaine. On a tous dans nos verres, là, la cuvée volcanique, nommée, en 2018. Alors, 2018, c'est un millésime qui a été très généreux en quantité et généreux aussi en qualité, avec des belles maturités. Donc, on a là un gamay charnu.
Pulpeux.
Oui, pulpeux, bien en chair. C'est assez sensuel. Et en même temps, on a véritablement la fraîcheur, ce caractère un peu fumé, très épicé, en fait, que prend le gamay sur un terroir basaltique.
Jackie Verdier est avec nous, non?
Jackie Verdier est avec nous. Donc, on le salue avec Maxime.
Où est-il? Levez la main.
Ils sont là-bas. Voilà.
Bravo. Très, bravo. Très beau travail artisanal. Merci d'être venu.
Bravo, parce que c'est vraiment un domaine que je connais depuis quelques années maintenant et dont j'apprécie vraiment le travail. Deuxième domaine.
On peut avoir une idée des prix?
Ah, pardon, oui, ça vaut 8,50 € la bouteille au domaine pour la cuvée volcanique 2018.
Très bien.
Un deuxième domaine, c'est le domaine de Gilles Bonnefoy, le vignoble de la Madone. Alors lui, il porte ce nom parce que une partie des vignes sont sur le volcan de la Madone. C'est un domaine qui est en biodynamie, créé en 1997. C'est un domaine qui fait 8 hectares. Et ben, pareil, on va retrouver, dans un style un petit peu différent d'ailleurs, parce que chaque vigneron a son style, on va retrouver ce gamay acidulé, on va retrouver ce vin rouge qui est très coulant, qui est gouléant, avec des tanins qui sont toujours très fins. Et puis, encore une fois, là, ce qu'on va goûter de chez Gilles Bonnefoy, c'est une cuvée qui s'appelle Dacite. C'est très amusant, cette cuvée. C'est un terroir qui est au pied de la maison. Et un jour, il y a un géologue qui lui dit, tu sais que juste en bas de chez toi, tu as du calcaire. Or, tout le monde sait que dans le Forez, il n'y a pas une once de calcaire. Et donc, Gilles regarde le gars en lui disant, faut arrêter de boire parce que là, il y a un problème. Et en fait, le gars, il avait raison. C'est-à-dire que la Dacite, c'est une petite roche, c'est une roche granitique dans laquelle il y a des inclusions de calcaire. Et donc, Gilles a décidé de vinifier cette parcelle à part et d'en faire une cuvée. C'est la première année qu'elle sort. Ça s'appelle Dacite. C'est un 2018. Ça vient d'être mis en bouteille. Et on va la goûter. On a le registre vraiment très acidulé, légèrement épicé, point de fumée. Avec la râpée de pommes de terre, c'est absolument admirable. Ça vient rafraîchir le palais. Ça vient enrober l'ail. C'était une petite merveille.
Très bien.
Donc là, on est à 11,50 € au domaine, vignoble de la Madone. Donc c'est des prix en plus qui sont quand même extraordinairement raisonnables pour des très très jolis vins. Vraiment, buvez des vins du Forez, goûtez des vins du Forez. Vous en buvez des vins du Forez ici ou pas?
Ah, parce bon. Que j'ai cette intuition. Est-ce qu'on se trompe dans l'équipe dont on va déguster les côtes du Forez? On en boit à Paris, surtout quand ça vient de vignerons militants, engagés, artisanaux. C'est des vins extraordinaires. On a un peu le sentiment que localement, à Saint-Étienne, on n'est pas franchement fiers de ces vins-là. Ah bon?
On a constaté dans les bars à vin qu'il y en avait un peu. Il n'y en a pas chez vous, Luce?
Non.
Non.
Si, j'en ai, je ne suis pas une cave à vin. Pour moi, je vous ai expliqué.
Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit vendredi matin. Ouais.
Je m'en sors bien.
On vous visait, Luce Cornan. Il va falloir mettre des côtes du Forez dans vos étages.
Mais j'irai
dans
voir
vos étalages.
Vos producteurs.
Mais
oui,
parce que vraiment, c'est vraiment deux très jolis domaines. Donc, buvez des vins du Forez parce que ça rend heureux.
Et les vins du Forez, est-ce qu'il y en a sur la carte des vins de l'éclosion, votre restaurant Pierre Carducci?
Oui, alors moi je travaille avec Gilles Bonnefoy sur deux cuvées, l'Urfé de la Madone en Roussanne qui est très bon et Migmatite sur le rouge. Avec l'autre vigneron, non, mais voilà, on travaille. Nous, on est plus colline rhodanienne, donc on a plus de vins. On est à côté de Condrieux, on travaille plus par exemple avec les déblottes de Tartaras, voilà. Des vins un petit peu de l'autre côté, mais voilà, c'est des très bons vins. Il y a peut-être cette connotation un petit peu réductrice, parce que voilà, c'est pas des grands noms comme en Bourgogne, comme en Bordeaux ou comme en Vallée du Rhône. Mais c'est des très bons vins qui méritent d'être connus.
Oui, ça mérite vraiment d'être connu parce que réellement, ce sont des rapports qualité-prix absolument incroyables. C'est vraiment des très jolis vins qui sont vendus à des prix qui sont très bas. Encore une fois, ce sont des productions artisanales qui demandent du travail. Donc réellement, 8,50 € pour la cuvée volcanique. Jackie, c'est pas assez cher.
Ouais. Bravo en tout cas.
Donc buvez des vins du Forez.
Dans un instant, on parle enfin fourme de Montbrison. Juste après, Elmer Lee Fields. C'est un artiste soul américain originaire de Caroline du Nord. Parfois surnommé d'ailleurs Little JB pour sa ressemblance physique et vocale avec James Brown. Vous allez voir.
Spinning my wheels. Ooh.
Brice et dresse le couvert à Saint-Étienne. Et pas très loin de Saint-Étienne, il existe une commune qui s'appelle Montbrison. Hervé Guillermin, est-ce que vous pouvez nous situer Montbrison par rapport à Saint-Étienne ?
Direction Clermont-Ferrand, on va dire, à peu près à une demi-heure de Saint-Étienne. Voilà, une belle petite commune avec, je suis obligé d'en parler, un marché extraordinaire le samedi matin. Toute l'année, un marché avec des producteurs et vraiment des produits exceptionnels.
Et vous y êtes évidemment forcément,
avec d'autres forcément, hein. Avec d'autres fromagers, il y a plein d'autres fromagers aussi.
C'est la capitale historique du Forêt, on est d'accord, hein, Montbrison.
Oui, sous-préfecture. Oui.
Et la zone de production de la fourme de Montbrison s'étale sur quelle zone géographique ?
Alors curieusement, Montbrison n'en fait pas partie.
Oui.
Voilà. Et la zone géographique se situe essentiellement sur les monts du Forêt, d'un secteur qui va de Sauvin jusqu'à Noirétable. Je parle de Sauvin parce qu'on est Chauvin et que c'est là où se trouvent les quatre derniers producteurs de fourme de Montbrison.
Quatre producteurs, dont deux industriels.
Dont deux industriels.
Alors, on va les citer, hein?
Ah, on peut, oui.
Oui, oui. Il y a le groupe Casino qui a repris un premier fabricant.
Oui, qui était anciennement l'établissement Tari. Ils ont conservé d'ailleurs le nom, appellation Tari.
Oui.
Et qui s'appelle aujourd'hui Entreprise Laitière de Sauvin.
Mm-hmm.
Voilà, qui appartient effectivement au groupe Casino. Et puis, un deuxième autre groupe, Le Pont de la Pierre, qui est le groupe Lactalis.
Oui.
Voilà. Donc, si on se réfère aux chiffres, la fourme de Montbrison, c'est, on va dire, en gros, 550 tonnes de fromage et plus de 400 tonnes produites par ces deux entreprises.
C'est ça.
Voilà. Et puis après, il reste deux petites entreprises artisanales. Donc, la fromagerie des Hauts-de-Chaumes, Hubert Tari, qui est ni plus ni moins que le cousin de Catherine.
Oui.
Et puis ensuite, la fromagerie La Griotte. Voilà. 5 tonnes sur les 550. Les zadistes un petit peu de la fourme de Montbrison.
Oui, c'est ça, les derniers des Mohicans.
Voilà.
Parce que faut quand même mettre le doigt sur une réalité, c'est que quand les opérateurs industriels s'infiltrent dans les appellations d'origine protégée fromagère, on connaît la chanson, hein. Ça va rarement dans le sens d'une amélioration de la qualité. On sait que par pression et par lobbying, le cahier des charges s'en trouve modifié.
Tout à fait. Ouais.
Pas dans le sens de la fabrication artisanale, du respect des traditions, mais plutôt dans le sens de la productivité, de la facilité, de la rentabilité, du lait pasteurisé.
Oui.
C'est un autre fromage.
Ah oui.
C'est pas du fromage.
C'est pas du fromage. Catherine Griot, soyons quand même lucides sur la situation. À l'heure où nos principaux fromages, en l'occurrence, on va un peu plus au nord de la France, le camembert, l'AOP, en voilà, elle se trouve à nouveau menacée. Sachez que le lait pasteurisé, vous avez dû en entendre parler, chers consommateurs, va bientôt être autorisé dans le camembert de Normandie, si c'est pas un scandale.
Ah oui. Ouais.
Oui, absolument. Par pression des industriels, et c'est toujours la même chose. Vous êtes fille et petite fille de fourmier.
Oui.
Et vous m'avez raconté, Catherine Griot, en préparant cette émission, que la fourme de Montbrison était une affaire de femme.
Oui, c'était pas la fourme de Montbrison au départ, c'était la fourme, quoi. Et elle était fabriquée en fait par les femmes et non pas par les hommes, parce que au moment en été, quand c'était le moment de monter en estive, on montait dans les fermes, nous c'est pas les alpages, c'est l'estive, c'était les femmes qui montaient avec le troupeau et qui faisaient le fromage là-haut. C'était elle, pendant que les hommes restaient en bas pour faire les foins. Et voilà.
Dans un habitat bien particulier dont j'ai appris le nom.
La Jasserie.
La Jasserie, voilà. C'est quoi exactement ?
C'est une ferme, la ferme d'estive, quoi, où les femmes y vivaient avec les enfants, avec les poules, les cochons et les vaches.
C'est ça.
Voilà. Et il y avait donc les tables à côté de la petite habitation, enfin, ça se tenait tout. Et la cave à fourme.
Et la cave à fourme. Catherine Griot, évidemment, il est difficile de définir la fourme de Montbrison sans la distinguer d'une autre fourme, j'ai presque envie de dire malheureusement un peu plus célèbre qu'elle.
Et oui.
Y a des points communs, il y a des différences. Je veux évoquer la fourme d'Ambert,
oui.
Voisine,
oui,
cousine.
Oui. Mais au départ, c'était la même AOP.
C'est ça. Quand je vous ai demandé la différence entre les deux, alors il y a évidemment le point commun qui est d'être une fourme, qui vient de l'ancien mot auvergnat forme, hein, d'ailleurs.
Voilà, oui.
C'est la meule cylindrique.
Oui, voilà.
Donc
ouais.
Elle se ressemble à peu près extérieurement.
Extérieurement, c'est la même taille, la même forme, le même poids. Par contre, il y a une différence, une grosse différence, c'est que la fourme d'Ambert, c'est un bleu,
Et la fourme de Montbrison, c'est un persillé.
Oui, mais alors, bleu, persillé, pour nous, c'était un peu la même chose dans, dans les catégories de fromage, dans les familles.
Non.
La différence entre le bleu et le persillé, donc c'est visuel, mais c'est aussi gustatif.
Oui, bien sûr. Donc, quand vous mangez un bleu, vous attendez à quelque chose qui soit un peu fort en bouche.
Oui.
Alors, quand vous allez manger un persillé, là, si vous voulez manger du bleu, vous allez être déçu, parce que c'est doux.
C'est-à-dire
qu'il y a moins d'espace dans le fromage, dans la fourme de Montbrison, pour que le bleu se développe. Du fait de sa fabrication, qui a un rendement beaucoup moindre que la fourme d'Ambert.
Oui.
Quand vous mangez de la fourme d'Ambert, vous allez manger de l'eau. Alors vous allez dire qu'elle est grasse, la fourme d'Ambert. Non, 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 c'est de l'eau.
Mais c'est vrai qu'on a une sensation... ça y est, ça tape sur le voisin. Mais on a une sensation... Attendez, la fourme d'Ambert, quand elle est bien faite, peut rester un bon fromage. Mais c'est vrai qu'il y a une sensation plus crémeuse. La vôtre, elle est plus dense.
C'est plus dense, voilà.
Et regardez ce beau persillé, parce que là, il y a une meule coupée en deux. On le voit très bien à la coupe. Ça fait pas ces espèces d'ouvertures bleues qu'on trouve dans la fourme d'Ambert, avec un bleu assez creusé, entre guillemets, au cœur de la pâte. Là, on est avantage dans des marbrures, en quelque sorte.
Voilà, c'est plus des marbrures. Il y a moins d'espace à l'intérieur pour que le bleu se développe.
Comment on obtient ce persillé ?
Au moulage. On égoutte beaucoup le caillé, il y a beaucoup de petits laits qui partent. On aura un caillé qui sera beaucoup plus dense, beaucoup plus ferme. Et ensuite, on émiette ce caillé pour pouvoir le mettre en moule ensuite. Et ces miettes de caillé vont pas complètement s'agglomérer les unes contre les autres, mais elles vont laisser un petit peu d'espace léger pour laisser la possibilité au bleu de se développer. Mais ce bleu se développera qu'au moment où nous, on le décide.
C'est ça, il y a une espèce de geste magique et ancestral.
C'est-à-dire que 15 à 20 jours avant la vente, on va piquer les fourmes. Piquer, ça veut dire leur faire des trous pour amener l'oxygène, parce que c'est la dernière étape de la fabrication de la fourme pour que le bleu se développe.
L'affinage, c'est combien de temps ?
Alors, l'affinage, là, on va parler des AOP, parce que on peut l'appeler fourme de Montbrison parce que c'est une AOP.
Oui.
Mais l'affinage dans l'AOP, c'est 31 jours. Nous, on préfère l'affiner à 2 mois.
Voilà. Double.
Voilà. Parce que quelque part, on a un fromage quand même qui a plus de goût, qui a pris plus de temps pour l'affinage.
C'est de toute façon le principal ingrédient des produits artisanaux.
Le temps, je dirais le temps et le fait que les produits soient affinés en cave naturelle. On n'est plus que deux affinés en cave naturelle, donc Hubert Tari qu'on a évoqué tout à l'heure et nous-mêmes.
Il y a une question d'auditeur dans notre assemblée. Bonjour monsieur, vous appelez comment ?
Je m'appelle Jean-Paul.
Oui.
Et c'est plus un commentaire qu'une question. Je suis amateur de fourme, j'en consomme même parfois trop. Mm-hmm. Pour moi, c'est un fromage extraordinaire. On ne trouve pas sur tous les marchés ou chez tous les commerçants de la fourme bio. Mais surtout, c'est un fromage qui ne supporte pas, pour moi, le réfrigérateur. Parce que plus cette fourme, on la laisse, je dirais, à température, peut-être pas à 25 degrés, mais à 15, 18 degrés, on continue, je pense, cet affinage et on a une douceur et en bouche, on a quelque chose une pâte excessivement agréable. Donc, moi, le conseil, si je peux me permettre, c'est vraiment ce fromage de le laisser sous cloche et on le voit évoluer sur la semaine et c'est vraiment très, très agréable au bout de quelques jours. Et alors aussi, il y a une façon de couper la fourme.
Oui.
Parce que quand on a des Lyonnais, par exemple, qui coupent la fourme...
ça y est. J'ai sorti mon gilet pare-balles.
Si vous voulez, il y a une expression, si je peux me permettre, à Saint-Étienne, quand un homme avait traîné un peu dans les bistrots, sa femme lui disait, mais d'où tu sors et tout. Il disait, on a égalisé la fourme.
Oui.
Parce qu'on ne peut jamais, quand on coupe la fourme normalement, on ne peut jamais l'égaliser.
Et Lyonnais, mauvais coupeur.
C'est la cause de la fourme.
Absolument. Alors, vraiment, à tranchons ce débat, Catherine Griot, comment on s'y prend, ou Hervé, pour couper une fourme ? On part d'une meule, hein, qui fait 2 kilos.
On part de la meule, on la coupe en deux.
Oui.
Et c'est de là qu'on la pose sur le plateau. Et là, on prend notre petit couteau, enfin notre couteau de table, et on tranche sur le dessus de la fourme pour se servir, tout simplement.
Mais on tranche assez épaisse, de combien de... un petit centimètre ?
En fonction de votre appétit.
Est-ce qu'on mange la croûte, Hervé ?
C'est une évidence.
Oui.
c'est une évidence. Nous, on travaille la croûte, donc c'est dommage de rocher la croûte. D'autant plus que toutes les saveurs de la cave vont s'exprimer dans la croûte.
C'est ça.
Donc, ouais. C'est important, quoi.
Ça fait partie du fromage, la croûte.
La fourme de Montbrison artisanale, c'est 10% seulement du total de la production de la fourme de Montbrison, dont on sait qu'elle est industrialisée. Comment êtes-vous optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de votre fromage? Qui, après vous, est-ce que vous pensez que la vraie fourme de Montbrison, dans ses traditions, peut s'en sortir?
On a des jeunes qui nous appellent, qui ont envie de voir comment qu'on fabrique. Ça en fait plusieurs qui sont passés à la maison. Et on leur montre, on leur explique, on leur dit que c'est long, c'est difficile à faire ce fromage. Mais ils en ressortent le sourire aux lèvres. Il y en a déjà un ou deux qui vont démarrer dans cette année.
Ah, bonne nouvelle. Donc, il y a des installations, Estherelle.
Puis la fourme de Montbrison est classée depuis novembre au patrimoine culturel immatériel national de l'UNESCO.
Voilà, protection. Alors, pour ce fromage en péril. Pierre Carducci, vous aussi, vous faites la promotion de ce fromage. Avouons, quand on vous a contacté, vous nous avez dit, il y a quelqu'un qu'il faut absolument inviter. C'est Catherine Griot. Et vous le servez, alors on l'a compris, vous pouvez le cuisiner, mais vous le servez également comme ça, naturellement?
Alors nous, tous les fromages qu'on travaille, on fait toujours une assiette autour du fromage, on n'a pas de plateau au restaurant, donc c'est vraiment une volonté de notre part, mais c'est vrai que voilà, on revient toujours à la même chose, par exemple sur le fromage de Catherine et d'Hervé, on est toujours sur le principe goût et texture, c'est vraiment que la fourme de Montbrison comme ça, elle a vraiment une mâche, elle a vraiment un côté fondant, un côté beurré, et puis sur le goût, il y a vraiment du fruit, il y a vraiment de la fleur, à différence d'une fourme d'Ambert où on aura quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, sec, beaucoup plus minéral. Donc c'est là qui est intéressant, où on peut travailler en forme de crème, en forme de siphon, en forme de glace, accompagné avec des fruits, accompagné avec des légumes, donc c'est génial.
Et j'aperçois d'ailleurs, voilà, un accord qui serait formidable. On a des côtes du Forêt et nous avons également cette cagette de mesclun invraisemblable. Faites-nous un petit inventaire de ces feuilles qu'il y a dans cette cagette. J'imagine que c'est papa qui s'est levé tôt ce matin pour les cueillir.
C'est ça, donc ça c'est les herbes que mon père produit, que j'utilise au restaurant sur toutes mes assiettes.
Regardez-moi ça quand même.
Donc là, par exemple, vous avez des nombrils de Vénus. Donc ça, c'est du sauvage. Hein. Ça pousse sur les murettes, dans les forêts. Des feuilles de Batavia rouge, de la Mizuna verte, du pourpier. Donc voilà, il y a plein de choses différentes.
Il y a du cresson.
Voilà, cresson alénois. Donc
cresson alénois qui...
Très moutardé, qui envoie un petit peu. Ouais,
qui envoie du volt hein, sous le palais. J'ai vu ça tout à l'heure, ouais, c'est très moutardé.
Ça a du slip, le cresson.
Ça a du slip, ben bravo. Ah, vraiment.
Juste une petite seconde pour dire que avec la fourme de Montbrison, c'est très très bon, c'est les roussanes qu'on trouve dans le Forêt. C'est un cépage blanc qui est originaire du Rhône. Ça fait un très joli accord avec la fourme de Montbrison.
Merci pour ce petit conseil de dégustation. Je vous propose de passer au dessert avec Esther El Payani.
On va déguster. Sur France Inter.
Estherelle, vous allez lancer un vrai référendum qui se résume en deux mots, craquante ou moelleuse?
Oui, alors je pense que la salle a déjà choisi son parti, mais même, je vais d'abord commencer par un petit jeu, oui. Parce que Mardi Gras, c'est le 5 mars. Alors je suis un peu en avance pour une fois, parce que partout en France, on va faire chauffer l'huile pour préparer les beignets traditionnels d'avant le carême. Mais selon les régions, les noms changent, les recettes aussi. Alors j'avais envie de jouer un peu avec vous,
c'est un vrai maquis, oui.
Pour savoir si vous savez d'où viennent les landimoles.
Quelle région?
Ah, j'ai commencé très difficile.
Picardie.
Bravo, vous avez gagné, vous avez une antithèse.
J'ai vos fiches sous les yeux, ouais.
Alors, est-ce que vous serez plus inspiré, ça c'est beaucoup plus simple, par les merveilles?
Ah, j'ai entendu la ville.
Ouais, bravo, vous avez gagné, Bordeaux. On les retrouve aussi en Périgord et en Charente. Mm-hmm. Je vous laisse choisir la dernière, François-Régis.
Les frappes. L'accord,
ah,
quand
oui.
Même.
C'était facile. Alors, on aurait pu citer aussi les corchevets de Lorraine, les tourtisseaux, les foutimaçons.
Bon, pour moi, il n'y en a qu'une. C'est la bugne.
Ah, bien sûr, en bon lyonnais
que
vous êtes.
Pas celle que vous croyez.
Croquante et fringante ou dodue et moelleuse?
Bon, Lyon, pas d'hésitation, c'est fin, c'est ultra croustillant et c'est vraiment, ça me rend fou, la bugne lyonnaise.
Alors moi quand même je suis provençale et je trouve que vos bugnes lyonnaises, elles ont quand même un sacré air d'oreillette.
Ah bon? Eh ben écoutez, ça n'a rien à voir hein, pour moi.
Bon alors heureusement je vous en ai amené, comme ça vous aurez la bouche pleine pendant que je parle.
Merci.
Parce qu'ici à Saint-Étienne, on va parler de la bugne stéphanoise. Et puis pour mettre tout le monde d'accord, la bugne en fait c'est le nom des beignets dans toute la vallée du Rhône et jusqu'en Franche-Comté. Là vous faites un peu une tête de bugne en carême, hein, mais les bugnes d'ici... À Saint-Étienne, on est généreux, on est moelleux, on est douillé. C'est juste des coussinets de pâte levée, découpés en losanges, repliés dans une petite fente comme une boutonnière. Faut un joli tour de main quand même pour les faire, hein, petite ganse. Et c'est un travail artistique et une forme bosselée qui renvoie à son étymologie. La buigne, c'est simplement la bosse en vieux français.
Ah, c'est ça. Donc la bosse, a priori, les Stéphanois auraient plutôt raison parce que c'est une gourmandise bosselée.
Bon,
et non pas plate, comme une limande.
Oui, plate comme une limande lyonnaise. Et puis vous allez arrêter de me concorner les oreilles avec vos bugnes lyonnaises, quoi, hein, quand même. Hein.
De me quoi ?
Concorner les oreilles.
Concorner, c'est-à-dire ?
Vous parlez pas le gaga, François Régis ?
Le gaga, ouais, vous êtes donc notre Lady Gaga.
Oui, ou pour Radio Gaga, Lady Gaga, ça s'imposait. Parce que ce que je ne savais pas avant de venir à Saint-Etienne, c'est qu'il y a un patois traditionnel qui s'appelle comme ça,
et oui,
le gaga. Et comme je le maîtrise pas bien, j'ai déjà un peu la lourde, là, à force de vous en parler. Enfin, pardon, le vertige. Oh,
le vertige, la lourde. Ah ben, visiblement, ça parle à certains de nos auditeurs. Voilà pourquoi les Stéphanois sont gaga de leur bugne.
Oui, il y a fort à parier quand même que ces bugnes, elles ont un peu changé au fil du temps. Au départ, les bugnes, c'était simplement de la farine et de l'eau frites.
Oui.
Et quand le vendier de Taillon parle de bruine au 15e siècle, la recette, c'est de la sauge broyée, du vin blanc, du miel et un peu de farine. Le beurre fondu, les œufs, le sucre, ça s'est ajouté au fur et à mesure. Au départ, on mangeait les beignets pour les jours de fête, même avant Noël, au moment du réveillon. Et puis après, ça a glissé. Ils se sont imposés avant le carême. Avant de faire maigre, il faut faire le plein de gras, évidemment. À Lyon, d'ailleurs, on appelait dimanche des bugnes le premier dimanche du carême. Elles étaient offertes par les charcutiers. Comme ça, elles se rappelaient aux bons souvenirs de leurs clients qui n'allaient pas les voir pendant pas mal de temps, quand même, jusqu'à Pâques. Et puis, ils utilisaient comme ça leur dernier huile ou leur dernier saindoux avant de le jeter.
Ah,
comme ça, c'était une petite carte de visite. Finalement, quand on réfléchit bien, le beignet, ça reste très, très, très marqué dans toute la vallée du Rhône. Alors, je crois que ce n'est pas la pâte qui est importante dans le beignet. C'est l'huile, c'est le gras. Parce que la région lyonnaise et toute la vallée du Rhône, c'est finalement la plaque tectonique de tous les gras. On va retrouver du beurre, on va retrouver du saindoux, mais on va retrouver de l'huile d'olive. La mère Filloux faisait ses bugnes à huile d'olive quand même. Maintenant, c'est de l'huile de friture, mais bon, on les avait toutes. On avait l'embarras du gras dans la région.
Peu importe le gras finalement, pourvu qu'il y ait le goût, hein.
Ah ça quand même, puis vous savez bien qu'on appelle sous le même nom des choses différentes. Là tout à l'heure on a vu sur la galette et la crique, mais il y a encore bien d'autres choses. Par exemple la salade de pissenlit au lardon, vous savez comment on appelle ça ici ?
Les barabans.
Eh oui.
Tout le monde connaît ça. Mais il y a aussi quelque chose qui était sur la galette du chef qui nous a beaucoup plu. On en a dégusté hier soir tous ensemble. Pour finir sur une autre fromagère, il y a le sarrasson. Le sarrasson, c'est un fromage frais historiquement à base de babeurre, un petit peu granuleux, mais maintenant je crois que tout le monde le fait au fromage blanc quand même, avec de la ciboulette, de l'ail, du sel, du poivre, qu'on mange avec un saucisson cuit ou la galette de pommes de terre.
Moi je connais la cervelle de Canut, vous connaissez ou pas ? Ah non, personne connaît. Excusez-moi. Je me tais.
Ça, c'est vous qui l'avez dit.
Sarasson, on en a juste là et on le goûte en se quittant. Pierre Carducci, comment vous le cuisinez, le sarasson ?
Ouais, alors par rapport à la cervelle de Canut, on est presque sur la même chose. Ce qu'on cherche vraiment, c'est le côté grelais du lait caillé. Moi, je le travaille avec un petit peu de piment et du vinaigre balsamique blanc. Donc, ça a apporté une belle acidité et un petit peu de sucrosité.
Génial. Voilà. Et vous en servez pour condimenter, par exemple, une râpée de pommes de terre.
Voilà. Ou en ce moment, au restaurant, on fait une tourte de caille feuilletée. Et ben, on l'accompagne avec un sarasson au vinaigre balsamique.
Juste après l'émission, on va partager ensemble avec un public définitivement nombreux vos pains d'épices aussi, faits avec le miel d'un apiculteur qu'on cite, qui est bio.
C'est ça. Donc, Fabrice Ponce, qui n'est pas certifié bio, mais qui travaille en agriculture raisonnée. Voilà. Moi, je connais comment il travaille vraiment super bien, donc c'est un ami de mon père depuis longtemps, donc je le connais vraiment comment il travaille avec plein de choses. D'ailleurs, on a la volonté sur cette année de rajouter des ruches au château pour avoir le miel du château en association avec Fabrice Ponce. Donc voilà, on a travaillé sur un pain d'épices, c'est pas de la région, mais je voulais vraiment mettre en avant ce produit. Mmh. Travailler avec un miel toute fleur, parce que ça évite d'avoir des notes un peu trop prononcées, comme le sapin ou des choses comme ça. Et le petit conseil sur le pain d'épices, c'est de mettre moitié farine de blé et moitié farine de sarrasin.
C'est ça. Voilà. Et ben la recette est en ligne sur franceinter.fr. On vous invite, chers auditeurs, à aller tester ce pain d'épices avec ce miel de la région. Merci à tous, chers invités. Merci aux équipes de Radio France, la qualité, la confiance, oui, c'est leur slogan. Merci aussi à Simone Semet, gourmette stéphanoise, pour ses conseils avisés. Merci à Augustin Piève, notre stagiaire de 3e à Saint-Omer, Laurent Thomas, Nadia Chougui. La semaine prochaine, retour dans nos studios de la Maison de la Radio pour une émission totalement consacrée à la banane. Et merci à Saint-Étienne, merci aussi à vous, cher public. Salut Saint-Étienne et à dimanche prochain. Si vous avez encore faim...